Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revue de presse, cinéma, consommation responsable, agenda culturel et sportif, nos invités vous parleront de leur actu. Marmite fait son actu, une émission présentée par Nouradine Agne sur Marmite FM 88.4.
Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Nous sommes ensemble pendant une heure pour vous parler de l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Nos invités du jour, Abdelaziz El-Jawari d'abord, président du CEMI, le Centre d'études et d'initiatives musulmanes des Yvelines. Il nous parlera de la fin du Ramadan qui approche, avec une fête qui devra avoir lieu samedi ou dimanche. Il nous expliquera notamment comment les mosquées se préparent à accueillir de nouveaux des fidèles à partir de la semaine prochaine. Nous écouterons également Ourissi Guyan-Courtoise qui nous parlera de son projet « Mama va au pot », un livre de la collection « Les aventures de Mama » à destination des enfants de 0 à 5 ans et dont elle est l'auteur. Elle nous parlera également de la campagne de financement participatif lancée sur Internet pour financer son projet. Dans Actu Yvelinoise, Caroline nous dira pourquoi on entend de plus en plus parler de mobilité douce depuis le début du déconfinement. Dans sa minute conso, Pierre de l'UFC Que Choisir nous donnera les nouvelles règles d'utilisation des tickets restaurants et des chèques cadeaux qui ont évolué avec la crise du coronavirus. Le flash d'actu local, c'est aux alentours de 17h30. Allez, on commence cette émission en musique et on revient juste après avec notre premier invité.
Now
Vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Tout de suite, le premier invité de Marmite fait son actu.
L'invité de Marmite fait son actu, c'est tout de suite sur le 88.4.
Abdelaziz Al-Jawari, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président du CEMI, le Centre d'études et d'initiatives musulmanes des Yvelines. Le ramadan est bientôt terminé. Vendredi ou samedi sera le dernier jour de jeûne. Un ramadan spécial avec la crise du coronavirus. Alors globalement, comment ça s'est passé ce ramadan pour les Yvelinois, pour les musulmans yvelinois?
En effet, donc ce mois du ramadan a vu le jour dans des circonstances particulières avec la pandémie. C'est pas que dans les Yvelines, c'est dans le monde entier. Mmh. Donc en effet, nous regrettons forcément les cérémonies religieuses, les prières du soir, les prières du vendredi, et même là, très probablement, la prière de l'Aïd, de la fin du ramadan, qui ne pourront pas se dérouler, parce que c'est l'occasion à la fois c'est des moments spirituels, mais aussi des moments de retrouvailles dans la communauté, dans les familles. Donc voilà, de ce côté-là, en effet, il y a eu un grand manque. Cependant, cette crise aussi a fait revivifier une autre dimension du mois de ramadan chez les fidèles et dans la communauté de manière généralement, qui est tout simplement la dimension de la solidarité. Ouais. Le jeûne du mois de ramadan est intimement lié. Il y a une dimension verticale qui relie chaque croyant à son Seigneur, mais il y a une dimension horizontale qui relie chacun à son prochain. Et c'est très important. Et donc, un des enseignements du mois du ramadan, justement, quand on fait cette expérience de privation, de nourriture notamment, et donc un des enseignements, c'est de goûter un peu à ce que certains vivent toute l'année. Et là, non pas par choix, c'est tout simplement par contrainte, parce qu'ils n'ont pas de quoi se nourrir. Donc voilà, donc là, c'était l'occasion de joindre les actes à la parole, et de s'investir pleinement dans des actions caritatives et d'être en aide à son prochain. Donc de ce côté-là, même si ça ne peut pas remplacer le côté rituel non plus, mais par contre, voilà, il y a eu des belles choses qui ont été faites de ce point de vue-là, et le mois du ramadan n'était pas complètement perdu, loin de là.
Mmh. Alors une ordonnance du Conseil d'État lundi a obligé donc le gouvernement, qui va obliger en tout cas le gouvernement à lever l'interdiction des réunions dans les lieux de culte dans un délai de 8 jours. L'institution estime que cette décision mise en place avec l'état d'urgence sanitaire était, je cite, disproportionnée et qu'elle portait atteinte à la liberté du culte. Est-ce que vous étiez plutôt favorable, vous, à un retour rapide des fidèles dans les lieux de culte? Je rappelle que vous êtes également président d'une mosquée à Mantes-la.
En effet, je suis aussi le président de la mosquée de Mantes-Sud à Mantes-la-Ville. Donc en effet, dans le cadre du déconfinement, il est tout à fait logique que les lieux de culte reprennent un peu de vie. Je rappelle tout de même que, y compris le décret du 11 mai, ça n'obligeait pas les lieux de culte à fermer. Donc ça nous empêchait de faire les cérémonies collectives, mais les lieux de culte pouvaient rester ouverts. De notre côté, pour le CMI, nous regrettons profondément le fait que des lieux de culte, notamment les mosquées, avaient été fermés. Et ça empêchait notamment les prières funéraires ou tout simplement des actions de solidarité vis-à-vis de nos concitoyens et des personnes qui sont dans le besoin, alors que c'était l'occasion justement de faire revivre toute cette dimension et de faire valoir aussi la dimension d'intérêt général de nos institutions. Par rapport à la décision du Conseil d'État, donc en effet, les magistrats estiment qu'il y avait une disproportion parce qu'il y avait des réunions qui étaient possibles ailleurs, mais pour le lieu de culte, c'était une interdiction absolue, donc ça créait un déséquilibre et une injustice de traitement. Aujourd'hui, en effet, donc les différentes communautés religieuses ressentent fortement le besoin de retrouver une vie religieuse, ce qui est tout à fait normal. Et donc, en effet, le Conseil d'État a donné un délai de 8 jours au gouvernement pour revoir sa position et repréciser les conditions de la réouverture des lieux de culte, mais en tout cas de permettre les réunions dans les lieux de culte. Donc, on est tous conscients En effet, il y a quand même une pandémie qui sévit encore, donc on est loin de, comment dire, d'avoir fermé ce chapitre du coronavirus. Et donc, il y a sûrement des protocoles à mettre en place, y compris au sein des lieux de culte et donc des mosquées également, notamment à ce que les personnes n'ont pas peut-être limité le nombre de personnes, que les personnes ne se touchent pas sur les rangs, voilà, qu'il y ait une distance d'un mètre ou plus si nécessaire entre les fidèles, peut-être de distinguer les entrées et les sorties pour qu'il n'y ait qu'un seul flux, pour que les flux ne se croisent pas. Désinfecter les salles de prière régulièrement. Voilà. Il y a un certain nombre de mesures qui peuvent être mises en place assez rapidement, au sein des mosquées notamment, pour permettre quand même de reprendre un peu notre vie religieuse dans des conditions qui ne portent pas non plus atteinte à la situation sanitaire.
En tout cas, vous confirmez, Abdelaziz Al-Jawari, il n'y aura pas de fête de fin du Ramadan ce week-end dans les mosquées, dans les Yvelines.
En fait, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore vu une position claire des autorités compétentes en la matière. Mais bon, voilà, donc on voit difficilement comment ça peut se tenir, parce qu'il n'y a pas de décision claire en la matière. Donc il est plutôt question d'ouvrir à la fin du mois, donc l'Aïd sera passé. Donc, sauf si le gouvernement apporte des éclaircissements avant cette date, en tout cas, à l'heure à laquelle nous parlons, on ne voit pas les prémices de cette décision.
Et peut-être un retour aux prières du vendredi, pas ce vendredi-là, mais le vendredi suivant à l'heure pour les fidèles.
De toute façon, le délai de 8 jours en question court depuis lundi, donc normalement oui. Et donc d'ici la fin de la semaine, début de semaine prochaine, le gouvernement doit repréciser sa copie. Et en fonction de cette décision qui sera prise, on s'adaptera pour la reprise des prières avec un protocole sanitaire adapté. Mmh. Mais c'est vrai que de la part des fidèles, oui, il y a quand même une vraie impatience qui s'exprime pour reprendre un minimum la vie religieuse. Parce qu'au-delà du rite, les retrouvailles à la mosquée, à l'église ou à la synagogue, il y a aussi une dimension sociale, il y a aussi une dimension de solidarité. Ce n'est pas que déjà le rituel en lui-même, il est important pour les croyants que nous sommes. Mais voilà, il y a tout aussi cette dimension sociale, de retrouvailles des gens. Et je pense que même dans une crise sanitaire aussi profonde que nous traversons, les gens ont besoin aussi de ce soutien moral et psychologique.
Alors, la crise du Covid avait mis en exergue le manque criant de carrés musulmans dans les cimetières en France. Est-ce qu'il y a eu du nouveau pendant le Ramadan ?
Oui, et donc nous avons été durement éprouvés, y compris dans les Yvelines. Pour vous donner un exemple, pas plus longtemps qu'avant-hier, donc on a dû résoudre un peu un énième problème parce qu'on a une personne qui est décédée sur la commune de Quivilly et qui est le corps est dans un frigo depuis plus de 7 semaines, parce que tout simplement
7 semaines, vous dites.
Oui, parce que par manque de carrés musulmans dans les cimetières. Comme les rapatriements dans les pays dits d'origine, en tout cas pour la plupart des pays, sont suspendus, ce ne sont pas possibles. Donc voilà, les familles sont dans une vraie détresse pour trouver une solution. Sur les Yvelines, au sein du CMI, donc on avait fait une enquête à l'échelle du département en 2019. Donc il y avait que 23. Il n'y avait que 23 communes qui disposaient d'un carré musulman. Mais sur les 23 carrés musulmans existants, il y avait déjà presque une moitié qui était déjà pleine. Donc vous imaginez un peu le décalage le nombre de communes que compte un grand département comme celui des Yvelines. Ce que nous avons remarqué, on est en train de réactualiser notre étude, parce que suite à cette situation, nous avons pris contact avec les différentes municipalités aussi sur ce sujet. Donc il y a un certain nombre de municipalités qui ont pris en compte cette demande et cette détresse des familles, qui ont créé des carrés musulmans. Donc on est en train de réactualiser notre étude, que nous publierons dans les prochains jours. Par contre, le manque, il est encore criant de ce point de vue-là. Et ce n'est pas lié juste à la crise du Covid a mis en exergue cette problématique, mais même après cette crise que nous espérons bientôt, La question des rapatriements dans les pays dits d'origine, c'est quelque chose qui va s'estomper, c'est une question générationnelle. Mmh. Donc c'était plutôt la première génération qui tenait à se faire enterrer dans leur pays d'origine. Mais aujourd'hui, les familles, si elles le font, c'est plus par contrainte, parce qu'elles n'ont pas de solution ici. Parce qu'il est beaucoup, il y a beaucoup de ces familles qui n'ont plus forcément d'attache dans ces pays-là, au bout de la deuxième, troisième, quatrième génération. Voilà, il y a un enterrement dans les pays d'origine. Bah, déjà financièrement, ça coûte très cher. Et deuxièmement, même par la suite, ne serait-ce que pour aller se recueillir sur la tombe d'un proche, il faudrait prendre un billet pour aller de l'autre côté de la Méditerranée, en Turquie, pour aller se recueillir. Donc, ce qui est complètement aberrant et presque impossible pour la plupart des familles. Donc, la question des carrés musulmans dans les cimetières est une vraie question cruciale et d'urgence. Voilà, donc cette crise a permis de sensibiliser la communauté et un certain nombre d'acteurs, notamment les élus ou les pouvoirs publics sur la question. Et nous espérons continuer ce travail-là avec tout le monde pour justement trouver les solutions adéquates.
Un dernier mot peut-être pour la communauté musulmane, pour fêter cette fin de Ramadan.
Oui, nous en profitons justement pour souhaiter tout de même une joyeuse fête à chacune et à chacun et à toutes les familles. Malgré que si on ne peut pas se retrouver au sein de nos mosquées, c'est quand même un moment convivial qu'on peut vivre en famille, avec ses voisins éventuellement. Donc voilà, dans la joie, dans la fraternité, dans le partage. Et donc je profite de votre antenne pour souhaiter une joyeuse fête du fin du Ramadan, Eid Mabrouk à chacune et à chacun, et de souhaiter aussi de joyeuses fêtes à nos amis chrétiens et juifs, parce que c'est une période dans laquelle on va vivre toutes les fêtes religieuses des différentes communautés qui vont se vivre les unes derrière les autres. Donc nous souhaitons à toutes et à tous de joyeuses fêtes, et y compris à nos concitoyens non-croyants d'ailleurs. Et voilà, et nous espérons que cet épisode qui a été douloureux pour tout le monde, que ça puisse être, qu'on puisse dépasser ça dans les plus brefs délais et qu'on puisse retrouver tout le monde en bonne santé.
Abdelaziz Al-Jawari, merci. Je rappelle que vous êtes président du CEMI, le Centre d'études et d'initiatives musulmanes des Yvelines. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Allez, sans transition, le Flash Actu. Licenciement en vue chez Renault, le constructeur automobile français envisagerait de fermer 4 sites en France, dont Flins, dans les Yvelines, dans le cadre d'un vaste plan d'économie qui doit être annoncé la semaine prochaine, selon les informations du Canard Enchaîné. Le groupe aux losanges doit dévoiler le 29 mai prochain les contours d'un vaste plan d'économie de 2 milliards d'euros annoncé en février. Pour ne pas avoir à jeter sa production, un agriculteur du Nord a vendu ses pommes de terre en drive à Saint-Cyr-l'École samedi dernier. Grâce à une chaîne de solidarité, la famille Demassier a affrété un semi-remorque pour acheminer 17 tonnes de pommes de terre jusqu'à Saint-Cyr-l'École. 300 précommandes avaient été faites au préalable par téléphone et sur Internet. Une vente qui a rencontré un véritable succès. Pour répondre à la demande, deux nouvelles ventes à prix coûtant sont organisées. Une vendredi de 8h30 à 18h à Maurepas sur le parking du magasin Nose et de la brasserie V&B rue Jean Perrin. Et une autre le samedi 30 mai de 8h30 à 18h à Saint-Cyr-l'École près de l'aérodrome. Pour accompagner les seniors isolés, le département élargit son dispositif intergénérationnel Yvelines étudiants seniors, qui met en relation chaque été une centaine d'étudiants et des personnes âgées. Le nouveau dispositif IES va recruter cette fois-ci 500 jeunes et demandeurs d'emploi pour lutter contre l'isolement de quelques 5000 seniors yvelinois entre juin et septembre 2020. Enfin, 5 villes de 50 ans en Yvelines vont procéder à l'installation de leur nouveau conseil municipal ce samedi, le 23 mai. À 10h30, c'est Montigny-le-Bretonneux qui ouvrira le bal à la grange de la ferme du Manet sous réserve d'autorisation préfectorale. À 15h, le même jour, c'est au gymnase de la Malmedonne que la ville de Maurepas installera son conseil municipal. Le lundi 25 mai, ce sera au tour de Coignières, en huis clos. Le mercredi 27 mai, c'est à Élancourt. Et enfin, le jeudi 28 mai, à Magny-les-Hameaux et également à huis clos. Allez, on marque une deuxième pause musicale dans cette émission Marmite fait son actu. et on revient juste après avec notre second invité. À tout de suite. Vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Tout de suite, notre second invité.
L'invité de Marmite fait son actu, c'est tout de suite sur le 88.4.
Ourissi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes Guyancourtoise et vous êtes avec nous pour nous parler de votre projet Mama va au pot, un livre de la collection Les aventures de Mama à destination des enfants âgés de 0 à 5 ans et dont vous êtes l'auteur. Pour publier votre projet, vous avez lancé une campagne de financement participatif sur Internet. On y reviendra tout à l'heure. Mais d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter aux auditrices, aux auditeurs de Marmite FM qui ne vous connaissent pas encore? En quelques mots, qui êtes-vous, Ourissi?
En quelques mots, alors je suis auteur du livre Mama va au pot et de toute une collection qui suit. je travaille dans le monde associatif en tant que bénévole.
Ouais.
Donc notamment dans le domaine sportif ou handicap, donc les deux derniers événements pour lesquels j'ai participé, c'est le HOP, donc le Handisport Open de Paris.
Mmh.
Et le championnat de gymnastique qui a eu lieu au Vélodrome de Saint-Quentin en tant que juge de touche. Donc, c'était une première expérience également. Donc j'ai toujours porté mon aide à différentes associations sportives de mon territoire. Et c'était une première, celle de HOP l'année dernière.
Ouais.
Puis j'ai toujours aidé, on va dire, mes semblables dans mes différentes initiatives personnelles, notamment en faisant des dons financiers à des associations d'enfants, mmh. Comme les SOS Village, ou à une collecte de denrées alimentaires et de distribution auprès de la pouponnière, les enfants de la pouponnière de Mbourg au Sénégal. Donc c'était la dernière en date.
Mmh.
Donc moi je suis très soucieuse de tout ce côté-là. Donc je passerai ma vie à aider parce que je suis comme ça.
ça... Bah oui, on va pas vous changer. Hein.
C'est ça.
Alors comment est né ce projet de créer un livre à destination des enfants, le projet Les Aventures de Mama?
Tout simplement parce que ma petite sœur a une fille à l'époque âgée de 2 ans qui s'apprête en fait à être propre pour la rentrée
en maternelle, ouais.
Maternelle en septembre. Hein. Mmh. Et donc du coup, elle n'arrivait pas, on approchait les délais pour à l'approche de la rentrée, approchait à grands pas. Elle m'appelle un soir, donc du coup, donc je lui dis, je vais essayer de trouver quelque chose pour essayer de la motiver à aller au pot. Et donc du coup, j'ai griffonné un petit mot comme ça pour essayer de lui communiquer les intentions. Puis je trouvais que c'était trop sérieux pour une petite fille.
Ouais.
Donc du coup, le lendemain, j'ai édulcoré le petit mot qui est devenu une histoire pour pouvoir, on va dire, l'inciter, la motiver, trouver une source de motivation pour aller au pot sans difficulté, sans avoir peur surtout.
Mmh.
Et le livre, je l'ai lu. Ma soeur, après...
nous a fait un retour dessus. Hein.
Et puis tout de suite après, au bout de quelques jours, ma nièce m'appelle en me disant « Est-ce que tu es fière de moi ?» comme dans le livre. Donc du coup, à chaque fois qu'elle y allait, elle m'appelait pour me dire « Est-ce que tu es fière de moi ?» parce qu'il y a une petite phrase dans le livre qui emploie le mot fierté.
Ouais.
Donc du coup, en fait, c'est pour ça qu'elle demandait très souvent, elle me faisait un retour très souvent de son exploit. Et du coup, comme c'est une petite fille extrêmement expressive, dynamique, pleine d'émotions, et sa maman, pareil, elle me fait des retours des expériences de vie de sa fille,
mmh.
Qui sont vraiment très entraînants, et puis moi je trouve que c'est source de d'alimentation pour lui raconter l'histoire de ce qui s'est passé dans sa journée, dans sa semaine ou de ses vacances. Et c'est comme ça que j'ai écrit en fait tous ces petits livres. À la base, ces livres étaient censés être à titre personnel, mais vu que j'en ai toute une flopée à côté de moi, et puis j'aime bien dessiner également, donc du coup je dessine très rapidement les petits croquis, et puis je rédige très rapidement les petits livres, même si je fais quelques petites retouches de temps en temps. Et ben après, ça a constitué toute une collection pour la première année de vie de Mama. Et ensuite, que de cette année, j'ai commencé, un petit peu l'année dernière quand même, j'ai commencé à prospecter en fait des illustrateurs professionnels pour mettre en page le livre Mama va au pot, mm-hmm. dans un premier temps,
mm-hmm.
et solliciter des maisons d'édition.
Ouais.
Bien évidemment, là, on est rentré en période de confinement et les comités de lecture n'ont pas lieu avant septembre-octobre. Et étant donné qu'on était en confinement, je ne savais pas du tout ce qu'il allait en être. Donc, j'ai opté pour de l'auto-édition pour ensuite pouvoir éditer le premier bouquin afin de le présenter aux maisons d'édition une fois qu'on serait en déconfinement et dès que je pourrais avoir un élément pour le présenter aux maisons d'édition.
Pour présenter un produit déjà fini, quoi.
Voilà, tout à fait. Donc, je suis passée par voilà une campagne participative. Alors, je ne sais pas si c'est le prochain sujet, donc je l'aborde tout de suite.
On va y revenir justement sur le projet participatif, mais pour poursuivre un petit peu sur cette histoire de Mama. Alors, Mama, c'est un surnom, hein. C'est ça, c'est le surnom.
Alors, Mama, c'est bien un surnom. Ouais. Et le vrai prénom, c'est Mariam.
D'accord. Donc c'est Mariam. Donc, vous avez comme ça raconté un petit peu. Par rapport à tout ce que vous disiez, votre sœur, voilà, vous êtes alimenté pour créer. Vous en avez quoi, une dizaine d'histoires à peu près, c'est ça?
Ouais, une bonne quinzaine là.
Une bonne quinzaine d'histoires.
Ouais, parce que là, j'arrive à la troisième année de Mama.
Déjà. Alors, il est vrai, parce que moi, c'est ce qui m'a frappé en voyant tout de suite la couverture du livre, que lorsqu'on regarde la couverture avec une petite fille noire avec sa belle coupe, voilà, une petite fille toute mignonne, belle coupe afro, on se rend compte que la plupart des livres pour enfants, même s'il y a eu une évolution hein, certainement ces dernières années, ben, on a très peu de héros ou de héroïnes issus, comme on dit, hein, de la diversité. Est-ce que c'est devenu une motivation? Est-ce que c'était une motivation initiale ou est-ce que c'est devenu justement après, vous êtes dit, ah oui, ben, c'est vrai que finalement, en comparant avec d'autres bouquins, voilà, ça va être quelque chose d'assez original aussi.
C'est vrai, effectivement, quand j'ai créé la pochette Mama, alors déjà j'ai trouvé super super joli, hein, le graphiste a fait un super boulot là-dessus, car il a vraiment bien représenté, et effectivement, on ne trouve pas beaucoup de livres afro de ce type-là, et effectivement, je rentre vraiment dans la diversité en tant que telle, dans les livres jeunesse. Et je pense que ça va être aussi un atout pour elle de tirer son épingle du jeu et essayer de se faire connaître et montrer que voilà, ça va être un livre qui va être aussi représentatif d'une autre partie de la population. Ouais. Et j'espère que ça sera vraiment toutes les populations qui pourront aimer et adorer ce livre-là sans cantonné à une communauté en particulier, parce que c'est pas comme ça que j'ai rédigé le bouquin et c'était pas la vision que j'avais eue du bouquin, puisque c'est parti juste d'un échange avec ma petite sœur. Donc j'espère que ça va plaire vraiment à l'ensemble des enfants, parce que c'est les enfants qu'on touche en premier, avant toute chose.
Alors votre livre, hein, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure quand vous vous êtes présenté, il sera également adapté aux enfants porteurs de différents handicaps. Voilà, handicap de la vision ou voire dyslexique. Ça, c'était important aussi pour vous de mettre ça en place?
Oui, pour moi, ce sentiment d'exclusion qui existe encore me touche énormément. Donc, toutes les actions que je fais dans ma vie, j'essaye d'inclure toutes les personnes, sans distinction de physique et sociale. Donc, ça me tient à cœur. J'ai des enfants, je côtoie énormément d'enfants dans mon entourage, et pathologie ou sans pathologie, et c'est bien de pouvoir ouvrir et la possibilité à tous les enfants d'accéder à ce type de lecture, parce que la lecture aussi, ça fait partie de la vie, et tout simplement de pouvoir accéder à ça. Ça ne peut être que bénéfique pour les enfants pour se sentir inclus dans la société et non exclus. Mmh.
Mais vous avez donc lancé une campagne de financement participatif pour financer votre projet. Alors là, vous avez dépassé les 700 euros de promesses de dons sur un objectif de 3500 euros. Alors à quoi va servir l'argent dans le détail que vous demandez, les 3500 euros?
Alors dans le détail, tout d'abord pour financer, plutôt payer l'équipe de travail qui est derrière moi, le graphiste, l'illustrateur. Je n'ai pas encore trouvé la personne qui fera la petite série animée, parce que je compte en faire une petite série animée. Ouais. C'est toute l'équipe technique qui constituera en fait la conception du livre et toute la partie commerciale et notamment la fabrication qui est plus spécifique aux personnes en situation de handicap, parce que c'est un coût plus élevé qu'un livre traditionnel qui va à tous les frais qui sont tout autour de la campagne de promotion de Mama. Si la Ulule, prendront une part de ce financement si j'atteins mon objectif.
Et puis il y a une part des bénéfices de la vente des livres qui sera reversée à une association qui est dans le domaine de l'enfance également,
voilà.
Pour rejoindre ce que vous nous disiez tout à l'heure.
Tout à fait. Donc c'est pour ça que pour moi c'est primordial d'atteindre mon objectif dans cette campagne-là, donc c'est-à-dire d'atteindre les 3500 euros parce que j'ai fait un appel à 3500 euros auprès des contributeurs. Et si voilà, j'arrive à dépasser cet objectif, la part des bénéfices ira automatiquement à une association que j'aurai au préalable sélectionnée, et principalement une association dans les Yvelines. Hein, donc j'espère moi sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Donc c'est un projet qui me tient vraiment à cœur et j'espère vraiment qu'on va atteindre cet objectif, si ce n'est plus, hein, pour pouvoir offrir cette part de bénéfice à une association dans le domaine de l'enfance sur le territoire de Saint-Quentin.
Alors pour celles et ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient soit en savoir plus sur le projet, puis vous soutenir, comment ils font concrètement et pour participer ?
Alors pour me soutenir, donc il faut aller directement sur la page Ulule en saisissant Mama va au pot. Donc une fois qu'on atterrit sur la page Ulule, il y a la description complète du projet. Donc il y a la présentation du projet, ensuite les détails de financement et ensuite pour terminer c'est la description de l'équipe et de moi-même hein, bien sûr. Et sur la partie la plus à droite de la page Ulule, il y a en fait toutes les contreparties du projet. Donc contreparties...
Oui, des personnes qui contribueront à ce projet.
Voilà, chaque personne contribuera on va dire à hauteur de leurs moyens. Et surtout de leurs possibilités.
Merci en tout cas, Ourissi, de nous avoir appelé pour nous parler de ce beau projet. Alors, la dernière question, c'est que vous avez jusqu'à quand pour récolter ces dons et pour pouvoir après lancer le projet ? Vous êtes donné une petite deadline ?
Alors, la deadline pour la fin de la campagne, c'est le 31 juillet. Donc, allez vite sur la page Ulule. Merci pour toutes vos contributions et puis votre soutien parce que j'ai déjà plusieurs contributeurs. Donc, je tiens sincèrement à les remercier et de me faire confiance hein, sur ce projet qui me tient vraiment à cœur. Le but, c'est que chacun délivre parce qu'à la suite de cette campagne de financement et si tout se passe bien, mais je sais que tout va bien se passer, c'est que tous les livres que j'ai déjà rédigés puissent être publiés et que chacun des livres puisse être associé à une association dans le domaine de l'enfance. Pas qu'une, chaque livre, une association et une part des ventes ira à ces associations. Effectivement, pour moi, c'est hyper, hyper important d'atteindre cet objectif et que les contributeurs ils seront remerciés par justement cette fameuse contrepartie dont on parlait tout à l'heure, suivant le panier qu'ils auront choisi.
Merci en tout cas, Ourissi. Je rappelle que vous étiez avec nous pour nous parler de la collection Les Aventures de Mama avec le premier épisode, donc Mama va au pot, à destination des enfants de 0 à 5 ans, dont vous êtes l'auteur, bien sûr. Et pour participer, donc, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Ulule ou à taper tout simplement Mama va au pot dans un moteur de recherche. Vous tomberez directement. Voilà, ce sera même plus simple pour ceux comme moi qui n'ont jamais le temps de prendre des notes. Merci, Ourissi.
Et si les livres que j'ai rédigés peuvent aider un maximum d'enfants, ça ferait vraiment plaisir il n'y aura rien de mieux.
Merci en tout cas.
Merci beaucoup, c'est gentil.
17h passé de 42 minutes. Vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Nous sommes en direct jusqu'à 18h pour vous parler de l'actualité de Saint-Quentin en Yvelines et ses environs. Tout de suite, on passe à Actu Yvelinoise.
Bonjour Caroline.
Bonjour Noradine.
Alors, tu nous parles de vélo en lien avec la région Île-de-France aujourd'hui. On t'écoute.
Oui. Alors, tout d'abord, j'ai une question pour toi, Noradine. Est-ce que tu possèdes un vélo? Et si oui, à quelle fréquence l'utilises-tu?
Réponse numéro 1. Oui, je possède un vélo. Réponse numéro 2. Ne peut pas se prononcer. Oui, bon, je l'utilise assez rarement, pour te dire la vérité.
Ok, d'accord. Voilà, le pourquoi de mes questions, c'est parce que le vélo, c'est un moyen de transport qui est mis en avant par le gouvernement et par l'ensemble des acteurs du territoire français depuis un petit moment maintenant. Et la crise sanitaire que nous vivons actuellement, elle remet au goût du jour de façon fortuite l'intérêt de ce mode de transport et répond aux questionnements de certains élus quant à la pertinence de la généralisation de cette mobilité douce sur l'ensemble du territoire. Donc, comme tu le sais, depuis le 11 mai dernier, notre pays sort progressivement du confinement et cela marque pour les Français un retour progressif à la normale. Et pour autant, ce retour presque à la normale fait surgir des craintes et il apporte aussi des questions, notamment sur les conditions de reprise de l'activité salariale sur le lieu de travail. Petite seconde question pour toi. Toi qui es au cœur de l'information, est-ce que tu sais, tu dois savoir quelles ont été les conditions, les précautions sanitaires pour une reprise de l'activité dans le lieu de travail optimum, à ton avis?
Oui, il y a plein de choses qui ont été faites, il y a plein de préconisations au niveau sanitaire, notamment pour que les gens ne se croisent pas, par exemple dans les couloirs. Qu'une seule personne utilise l'ascenseur, se laver régulièrement les mains, avoir un certain espace par salarié, des choses comme ça. Et puis après, il y a le déplacement pour comment on vient au boulot.
Oui, voilà. Et donc moi, c'est sur ce point-là que je me suis focalisée, c'est justement ce trajet, le déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Donc, avec ces nouvelles précautions sanitaires, la saturation des réseaux de transport habituels, elle est quasi inévitable. Comment parer à l'engorgement des transports en commun, vu les dispositions sanitaires mises en place sur le trajet, à l'intérieur des wagons de train, de métro, et comment parer à l'affluence sur les réseaux routiers si les transports en commun sont délaissés au profit des voitures individuelles pour effectuer ce fameux trajet domicile-travail. Donc il y a une petite donnée chiffrée que je vous donne. Il y a habituellement 5 millions de voyageurs par jour dans les transports en commun. Et donc il faut répondre à ces questions de gestion de flux humain et éviter ainsi la paralysie des réseaux routiers. Parce que j'imagine bien qu'avec justement cette nouvel agencement des transports en commun, donc le RER, le métro, il n'y aura pas les 5 millions de voyageurs habituels journaliers qui pourront circuler dans ces transports en commun. Eh bien, le gouvernement s'est penché sur cette problématique et la ministre des Transports, Elisabeth Borne, après avoir missionné Pierre Cern, ex-vice-président en charge des transports de la région Île-de-France et président du club des villes cyclables, donc celui-ci a élaboré un plan concret et donc la ministre des Transports a présenté le 30 avril dernier les points clés du plan vélo. Donc il y a un plan vélo qui est lancé depuis le 30 avril dernier. Donc je cite les paroles de la ministre des Transports. Le déconfinement est le moment d'illustrer que le vélo est un mode de transport à part entière et pas seulement un loisir. Alors que 60% des trajets effectués en France en temps normal font moins de 5 km, les semaines à venir représentent une occasion pour de nombreux Français, d'ores et déjà cyclistes ou non, de choisir le vélo pour se rendre au travail ou faire des déplacements de proximité. Donc, petite question, hein. Nouradine, pourquoi une telle initiative, une telle incitation des Français à utiliser le vélo, d'après toi ?
Bah, raison de pollution, déjà.
Ouais.
Moins de personnes dans les transports en commun, moins de risques de contamination.
Mm-hmm.
Voilà, déjà, c'est pas
ouais,
mal.
Oui, c'est ça. Oui, c'est pas mal. Mais c'est exactement ça. Et donc, ce plan, cette initiative, incitation à l'utilisation du vélo, comme tu dis, c'est pour justement permettre aux Français de respecter cette fameuse distanciation physique d'un mètre. Et donc, les mesures de ce plan, c'est un plan à hauteur de 20 millions d'euros. Donc, 20 millions d'euros ont été débloqués, donc qui vont s'inscrire dans le cadre du programme de certificat d'économie d'énergie Alvéole. Et donc, c'est un plan qui est déployé en partenariat avec la Fédération des usagers de la bicyclette. Et donc, ce plan comprendra un coup de pouce réparation au vélo. Donc, c'est une prise en charge exceptionnelle jusqu'à 50 euros pour la remise en état d'un vélo au sein d'un réseau de réparateurs référencés. Il y aura aussi des formations gratuites, donc des coups de pouce remis en selle pour apprendre ou réapprendre à circuler de façon vraiment sécurisée à vélo. Il y aura aussi une prise en charge jusqu'à 60% des coûts d'installation des places de stationnement temporaire pour le vélo. Et depuis peu, tu as sûrement entendu parler du forfait mobilité durable. C'est il y a un décret qui a été appliqué, et donc elle va permettre la mise en elle permet là c'est présentement elle est applicable, elle permet la mise en place du aux employeurs pardon elle permet aux employeurs de prendre en charge jusqu'à 400 euros les frais de déplacement de leurs salariés sur leur trajet domicile-travail effectué à vélo ou alors en covoiturage ou à l'aide d'autres services de mobilité partagée. Et la mesure la plus conséquente, c'est le développement de pistes cyclables temporaires pour des trajets sécurisés. Est-ce que toi, quand tu te rends sur ton lieu de travail, tu vois des pistes cyclables temporaires qui ont été aménagées ?
Non, pas du tout.
Pas encore.
Okay. Non, j'ai pas vu.
Ouais. Ben, sur Paris, justement, il y a vraiment un grand développement de ces pistes cyclables temporaires. Et ces pistes cyclables sont aménagées sur justement les trajets des lignes de métro qui sont les plus usitées par les Parisiens. Donc ce plan vélo de 20 millions d'euros, il est là parce que justement le c'est un moyen de permettre d'éviter une seconde vague, mais c'est aussi, il faut prendre du recul sur ce plan et le remettre dans un contexte plus global. Ce plan aussi s'inscrit dans un cadre donc plus global, notamment avec la loi d'orientation des mobilités qui a été publiée le 26 décembre 2019. Cette loi, est-ce que tu en as entendu parler ?
Non, pas du tout.
Cette loi, elle transforme en profondeur la politique des mobilités avec un objectif simple, c'est-à-dire avoir des transports du quotidien plus faciles, moins coûteux et plus propres. Cette loi, elle porte de grands investissements. 13,4 milliards d'euros sont dépensés sur la période 2017-2022. Avec une priorité donnée au transport du quotidien. Donc avec cette loi, il s'agit d'apporter des solutions nouvelles pour se déplacer plus facilement. Il s'agit aussi de tirer parti de la révolution numérique afin de proposer des nouveaux services aux usagers et d'investir dans des transports plus propres avec notamment le déploiement de la recharge électrique, l'inscription dans la loi de la fin des ventes de voitures à énergie fossile carbonée d'ici 2040 ou encore le développement de zones à faibles émissions. Et justement, le plan vélo s'inscrit dans cette loi sur les mobilités et il fait partie en fait du troisième grand axe, réussir la transition écologique des mobilités. Donc Le plan vélo a pour objectif de tripler la part modale du vélo d'ici 2024. Et donc, comme je l'ai dit au début, la pandémie de Covid-19 et le déconfinement, elle donne un coup d'accélérateur justement à cette loi sur la refonte des mobilités sur le territoire national. Donc là, je vous parle d'une manière plus globale, donc sur le plan national, mais je vous parlerai la semaine prochaine de justement des actions concrètes qui sont menées par la région Île-de-France et dans notre département, les Yvelines, avec notamment le fameux RERV, le réseau express de vélo, qui est un projet d'envergure vraiment, on va dire à l'échelle régionale, mais aussi une envergure majeure pour le territoire français.
Merci Caroline.
Oui, de rien, Nouradine.
Et à la semaine prochaine.
Oui, à la semaine prochaine.
Allez, on termine cette émission avec la Minute Conso de Pierre Joannet de l'UFC Que Choisir.
La Minute Consommateur avec Pierre Joannet.
Pour que les salariés puissent utiliser plus amplement leur ticket restaurant, le gouvernement devrait finalement augmenter leur plafond d'utilisation journalier. Une mesure destinée à apporter un coup de pouce aux restaurateurs lorsqu'ils pourront rouvrir. Du côté des autres bons, cartes ou chèques de paiement cofinancés par l'entreprise, la souplesse est également de mise. Avec l'état d'urgence sanitaire dû au coronavirus, il n'est plus possible d'utiliser ces tickets repas ou ces chèques déjeuner dans les restaurants ou les fast-foods, puisque ceux-ci font partie des commerces ou activités dont la rouverture n'est pas encore autorisée. Seule solution, les écouler dans les supermarchés ou les commerces de proximité, qui demeurent libres de les accepter ou non, dans la mesure d'un plafond fixé jusque-là à 19 euros par jour et par commerçant. Le gouvernement, qui avait envisagé dans un premier temps de porter ce plafond à 95 euros par semaine, vient finalement de se prononcer pour une autre mesure. Augmenter le plafond journalier d'utilisation de 19 à 38 euros, histoire d'inciter les Français à se rendre à nouveau au restaurant lorsque leur ouverture sera prononcée. Autre coup de pouce qui devrait lui aussi être officialisé dans les semaines qui viennent, les titres restaurants pourront, comme aujourd'hui, être utilisé les jours ouvrables, mais aussi le week-end et les jours fériés, et cela jusqu'à la fin de l'année. Tous les émetteurs confondus, les titres restaurants, c'est-à-dire les chèques ou leur version dématérialisée sous forme de cartes rechargeables, ont une durée de validité limitée qui va jusqu'à fin décembre 2020 pour les titres émis en janvier de cette année. Ponctuellement, cette durée peut se prolonger d'un mois ou deux, soit jusqu'en février 2021, mais pas plus. Passé cette échéance, un échange ou un report de millésime des titres non utilisés est en principe possible. Du côté des chèques bons ou cartes cadeaux acceptés par de multiples points de vente physiques ou en ligne, la plupart des émetteurs indiquent avoir mobilisé leurs enseignes partenaires afin qu'elles les acceptent au-delà de leur date d'expiration initiale. Certains émetteurs travaillent en ce moment même à une solution plus simple, la possibilité de leur renvoyer des titres périmés directement sans passer par le CES de l'entreprise. Valable 2 ans, les chèques vacances et coupons sport sont un peu moins périssables que les autres, sous réserve de pouvoir les utiliser cet été pour payer une prestation de transport, un hébergement en camping ou à l'hôtel, ou encore un éventuel séjour à l'étranger. Des chèques émis en 2018 sont ainsi valables jusqu'au 31 décembre de cette année, mais pas au-delà. Non utilisés et sous réserve que leur valeur totale soit d'au moins 30 euros, il est possible de les échanger en ligne sur une plateforme dédiée. Mais ce service aura un coût, 10 euros déduits de la valeur des titres ou coupons remis en échange. Les cartes ou bons de cinéma prépayés, valables auprès des principaux exploitants cinématographiques, devraient avoir leur durée de validité automatiquement prolongée sans démarche spécifique à effectuer. Pathé Gaumont a pour le moment prévu une prolongation de ses titres jusqu'au 30 septembre 2020 si leur date d'expiration se situait entre le 15 mars dernier et le 31 août prochain. UGC indique que la validité des places expirant entre le 31 mars et le 30 avril 2020 sera effectivement prorogée mais sans indication de date précise.
Marmite fait son actu, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Le prochain direct d'actualité, c'est mercredi prochain de 17h à 18h. Et d'ici là, portez-vous bien.
Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revues de presse, cinéma, consommation responsable, agenda culturel et sportif, nos invités vous parleront de leur actu. Marmite fait son actu, une émission présentée par Nouradine Agne sur Marmite FM 88.4.